Je me rappelle que chez les bouquinistes de la Mayenne, on trouvait il n'y a pas si longtemps des contrats de louage entre les ouvriers agricoles du 19e siècle et leurs employeurs. On y disait qu'on n'avait pas le droit de faire manger du saumon à l'ouvrier agricole plus de 3 fois par semaine. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le secrétaire général de la Fondation Patrimoine et Environnement quand il ouvre le colloque de l'association pour la sauvegarde des moulins. Lequel d'entre nous n'a pas déjà entendu cette merveilleuse histoire de la bouche d'un conférencier ou lu dans un livre spécialisé ou de vulgarisation quand il ne l'a pas colporté lui-même en rajoutant des détails très précis pour renforcer l'affirmation? C'est très amusant. En général, l'auteur de ce genre d'affirmation n'a jamais vu lui-même le moindre de ses contrats de louage. Quant à ceux qui en ont vu, en général, il parle des quelques mêmes qu'on trouve et qui sont par ailleurs sujets à caution. C'était donc avant. Avant, il y avait tellement de saumon que les ouvriers agricoles refusaient qu'on leur en serve plus de 3 fois par semaine. Impossible de résister à la tentation de reprendre la légende à son propre compte. C'est ça la force d'un mythe. Tellement merveilleux d'imaginer que nos saumons vénérés pullulaient jadis au point que les pauvres travailleurs de la campagne en soient gavés. Bien sûr, comme tous les mythes, celui-ci repose sur quelques faits objectifs. La chair du bécard est fade, celle du poisson conservé dans la saumure, proprement immangeable, et c'est probablement celle-là qu'on devait essayer de refiler aux ouvriers agricoles. Ce n'est évidemment pas le beau saumon frais qui finissait sur la table des banquets locaux ou dans l'assiette des riches. Mais cette propension à l'exagération, elle serait plutôt d'ordre idéologique, avec l'arrivée du pêcheur sportif au début du XXe siècle. Il accuse la pêche professionnelle, le braconnage, d'avoir causé la régression de l'espèce. Et plutôt, c'était pourtant le pêcheur professionnel qui accusait la Révolution française d'en être la cause pour avoir institué le droit de pêche pour tous. Savez-vous en effet que ce mythe du saumon surabondant courait déjà au XVIIIe siècle et qu'à cette époque aussi, on parlait d'avant, en déplorant la baisse du stock de saumon? En fait, on remarque que de génération en génération se perpétue l'idée de raréfaction du poisson en général, avec en arrière-plan un passé placé sous le signe de l'abondance. Mais la grande force du mythe, c'est en réalité la puissance symbolique de ce saumon atlantique, dont l'origine remonte à quelques 10 millions d'années. La séparation entre les souches européennes et américaines à environ 600 000 ans. On m'a parlé des rives des continents. Encore de quoi alimenter le mythe. Salmo salar, le sauteur en latin. Celui qui est censé attraper sa queue entre ses mâchoires pour se détendre ensuite comme un ressort afin de sauter l'obstacle. Encore un mythe, bien sûr. Depuis la nuit des temps, notre cher saumon a fasciné les hommes. Ainsi qu'en témoignent ses représentations préhistoriques, comme celui qui est gravé dans l'abri du saumon au bord de la Vézère. Et ce n'est pas seulement pour son intérêt culinaire, comme avant, sportif, comme au début du XXe, ou écologique, comme maintenant. C'est surtout que c'est un magnifique poisson, puissant, un poisson énigmatique, dont le cycle vital nous réserve encore des mystères. La mythologie irlandaise, elle en a fait le saumon de la connaissance, Bradan Fesa. Énorme et plus sage que les hommes, il transmet ce savoir à celui qui mange sa chair. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la force mythique du saumon? Ne serait-elle pas de nous rassembler autour de questions environnementales et de choix de société tout aussi urgents pour l'avenir de notre espèce? Il me semble que je l'avais compris il y a 20 ans lors du premier colloque de Brioude, où j'étais aussi, et c'est une des raisons fondamentales de la création de l'Observatoire des poisson migrateur à Vichy. Faire partager, faire connaître. Si nous arrivons à sauver le saumon de l'Allier, c'est qu'alors nous aurons sauvé la rivière. Nous aurons sauvé notre environnement. C'est peut-être un nouveau mythe que celui du saumon rédempteur. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y croire lorsque le dieu saumon vient nous visiter chaque printemps. Alors rien que pour l'optimisme que sa magie véhicule, ça vaut le coup de dépenser de l'énergie, de l'argent, du temps, et aussi, surtout, de partager le mythe avec le plus grand nombre pour que vive le saumon de l'Allier. Merci.